autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Libération des mœurs, croissance économique et enthousiasme de la conquête spatiale. Les années 60 sont une décennie mythique qui marque durablement la mémoire collective. Mais les 60s, c'est aussi le temps de la guerre froide, des tensions politiques et des batailles sociétales pour la contraception ou la protection de l'environnement. Dans les domaines de la médecine, de la physique, de la biologie ou des sciences sociales, quelle grande découverte scientifique a engendré cette décennie révolutionnaire ? Quel contexte économique et culturel a permis de faire émerger la pilule, l'internet ou l'écologie politique ? Existe-t-il un mouvement commun, une manière nouvelle de penser la science qui a modifié notre vision du monde ? Autour de la question « Qu'est-ce que la science des 60s ?», la réalisation est signée Sophie Janin. Bonjour Olivier Néron de Surgi.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes docteur en astrophysique et journaliste scientifique, écrivain. Vous avez coordonné avec Stéphane Tirard le livre « La science des 60s » paru chez Belin. Et vous êtes venu avec l'un des auteurs de ce livre, Pierre Mouniécune. Bonjour.
Bonjour Sophie Joubert.
Vous êtes chargée de recherche au CNRS en histoire contemporaine, attachée au centre Roland Mounier, et vous êtes spécialiste de l'histoire des sciences et de l'histoire de l'informatique en particulier, une discipline qui concerne particulièrement cette décennie des 60s. Alors Olivier Néron de Surgi a un mot sur la ligne éditoriale de cet ouvrage, 44 articles dans l'ordre chronologique rédigés par des spécialistes de chaque discipline. Pourquoi cette décennie est particulièrement féconde pour l'histoire des sciences ?
C'est une décennie qui a un côté un petit peu mythologique aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. On connaît tous des événements importants en science ou ailleurs. Alors, dire pourquoi elle est particulièrement féconde, ça c'est un petit peu difficile. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on est encore au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qu'il y a un certain nombre d'éléments contextuels qui ont pu être propices à un certain nombre de transformations importantes dans le milieu des sciences et par les sciences. Donc on voit apparaître par exemple des grands organismes de recherche scientifique se mettre en place. Je pense en particulier à la NASA aux États-Unis.
À laquelle vous ne consacrez pas d'article, bizarrement.
Oui, mais enfin bon, on en parle, on voit quand même voilà. En filigrane. Voilà, il y a aussi le CERN qui est né dans les années 54, en 1954. Donc il y a un contexte particulier dû à la guerre froide. Il y a aussi un contexte socio-économique très riche qui a sans doute été propice à l'émergence d'un certain nombre de nouveautés théoriques et d'innovations technologiques.
Alors, vos années 60 ne commencent pas en 1960 exactement, mais plutôt en 1957, avec l'année de géophysique internationale qui s'est déroulée exactement du 1er juillet 57 au 31 décembre 58. Écoutez cette archive de l'INA.
L'homme a toujours tenté de pénétrer plus profondément les secrets de la Terre et de l'univers. Mais notre connaissance des phénomènes naturels a souvent été arrêtée par notre impossibilité d'explorer l'espace. Récemment, l'idée d'une année internationale géophysique a été lancée par plus de 60 nations. Efforts scientifiques à l'échelon mondial en vue de faire progresser notre découverte du monde planétaire et de l'infini. 10 000 savants de toutes les parties du globe participent actuellement à cette vaste entreprise. Ces hommes de science et leurs gouvernements respectifs décidèrent de se livrer pendant la durée de l'année géophysique internationale à de nouvelles recherches scientifiques pour le bénéfice de la communauté mondiale. Lorsqu'un tel programme fut établi en juillet 1957, le président Eisenhower s'engagea en ces termes au nom du peuple et du gouvernement des États-Unis. Ce 1er juillet marque le début de l'une des grandes aventures scientifiques de notre temps, l'année géophysique internationale. Durant cette période, qui sera en fait de 18 mois, les savants des États-Unis joindront leurs efforts à ceux des spécialistes d'environ 60 nations pour poursuivre l'étude la plus intensive qui ait jamais été engagée sur notre planète.
Pourquoi cette année géophysique internationale est un marqueur ? C'est parce que c'est un exemple de coopération scientifique, cette période, Olivier Néron de Surgi ?
Oui, d'abord c'est une grande coopération internationale qui a mobilisé un grand nombre de scientifiques dans beaucoup de pays, comme on vient de l'entendre, mais il faut bien se rappeler que on est vraiment là dans, en pleine guerre froide, et que certes il y a eu des coopérations, mais elles n'ont pas été faciles, et il y a une compétition entre, notamment entre les USA et l'URSS, qui va s'exprimer même à l'intérieur de ce programme.
Et mais ce qui est intéressant, alors ce programme se déploie notamment au pôle sud, et ce qui est intéressant, c'est que en Antarctique, et ce qui est intéressant, c'est que au fond c'est la fin d'une frontière, puisque on conquiert cette frontière terrestre, et comme cette frontière est conquise, on va regarder en haut.
Il y a un côté un petit peu paradoxal quant aux frontières justement et aux affrontements qu'on peut voir dans la guerre froide. Mais dans l'année géophysique internationale, il y a effectivement tout un volet qui consiste à étudier la Terre dans sa globalité, et il y a des programmes spatiaux d'observation de la Terre. Hein, donc on pense déjà à utiliser des satellites pour étudier la Terre, et donc là où effectivement on se tourne vers l'espace.
Donc 57, c'est le Spoutnik. C'est aussi la supraconductivité qui trouve une première explication. Et puis, en 59, il y a un philosophe autrichien naturalisé britannique, Karl Popper, qui publie un livre extrêmement important pour ces années 60, Pierre Mounier-Kuhn. En réalité, le livre avait été écrit bien plus tôt, hein, dans les années 30, mais il est traduit à ce moment-là. Et quel est ce virage philosophique qui se produit à ce moment-là avec Popper?
C'est vraiment un des événements emblématiques de l'arrivée de la philosophie analytique qui était née à Vienne dans les années 20, dans ce bouillon de culture qui était la Vienne d'après la Première Guerre mondiale, et qui continue un programme déjà assez ancien d'analyse de ce qu'est la science. Donc c'est un discours réflexif sur la science, par des scientifiques, par des mathématiciens, par des philosophes. C'est un discours qui, de temps en temps, recoupe les travaux des logiciens sur les fondements de la science. C'est un discours qui prend aussi en compte toutes les transformations de la science depuis la physique quantique, Einstein, la relativité, etc. Et en même temps, Popper est un militant politique. Mmh. C'est un militant politique parce qu'il a fui l'Europe centrale en pro-dictature, communiste d'abord, ou en même temps et nazi. Et il donne une définition de la science qui va être considérée comme une machine de guerre dirigée contre les marxismes, les totalitarismes de tous bords, en disant que une science... c'est fondamentalement une théorie ou un ensemble de théories qui indiquent dans quelles conditions elles seront fausses. On a mal traduit ça, à mon avis, en français.
On parle de réfutabilité.
De falsifiabilité. Oui. Il me semble qu'on devrait dire réfutabilité. Une vraie démarche scientifique, un scientifique honnête, d'après Karl Popper, est quelqu'un qui définit quelles sont les limites de possibilité de ce qu'il énonce. Et c'est une théorie critique redoutable pour tous les raisonnements en boucle, pour toutes les théories closes, pour tous les systèmes idéologiques qui s'auto-justifient. Et la psychanalyse est aussi une des cibles, de fait, de la philosophie de Karl Popper.
Alors, Popper, militant politique, les années 60, c'est vraiment la décennie des grandes batailles politiques, du militantisme. Alors, en 1960, c'est la commercialisation de la pilule aux États-Unis, donc bataille sociétale. Et puis, c'est l'émergence, en 1962, de l'écologie politique, avec ce que vous appelez dans le livre la bataille du DDT. Écoutez la voix de l'américaine Rachel Carson, journaliste militante et auteure de Silent Spring, le printemps silencieux.
Pour ces gens, apparemment, l'équilibre de la nature était quelque chose qui s'annulait au moment où l'homme entrait en scène. Mais c'est un peu comme si on annulait la loi de la gravité. L'équilibre de la nature est construit à partir d'une série de corrélations entre les êtres vivants et entre ces êtres vivants et leur environnement. On ne peut pas simplement changer brutalement une chose sans que l'ensemble en soit modifié.
En quoi cette femme journaliste, qui meurt d'ailleurs assez peu de temps après la parution de son livre, fait émerger sur la scène médiatique l'écologie politique, Olivier Néron de Surgé? Elle milite pour la cause des oiseaux au départ. Hein.
Oui, elle est spécialiste de la biologie marine en fait initialement, et puis elle s'intéresse beaucoup aux populations d'oiseaux. Et alors ce qu'il y a un peu de particulier dans cette histoire que nous raconte Valérie Chansigo, c'est que en fait c'est une personne, Rachel Carson, qui n'est pas vraiment dans une institution de recherche scientifique et qui va donc faire un véritable travail de journaliste. Et donc là on a un peu ce personnage de whistleblower, comme disent les anglo-saxons,
donneur d'alerte
qui donc fait un avec un travail de journaliste éclairé, parce qu'elle connaît très bien toute la littérature scientifique sur ces questions environnementales et sur l'usage des pesticides. Donc cette figure qui tout à coup fait irruption dans l'espace public avec son livre qu'elle a rédigé après avoir mené une enquête un peu discrète, parce que elle se mettait un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis des grands lobbies des entomologistes, des producteurs de produits chimiques et du monde agricole. Et donc ça a fait l'effet d'un grand boom médiatique, parce
qu'à l'époque on pensait que le DDT était bénéfique, hein, il y avait des publicités qui vantaient les mérites du DDT.
Et oui, le discours dominant était vraiment faisait l'éloge du DDT parmi d'autres pesticides.
Qui a quand même permis d'enrayer le typhus après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, oui, effectivement, il a résolu des problèmes graves dès la guerre, et puis il a permis effectivement d'enrayer des épidémies. Et puis les effets néfastes en fait dont Camille en lumière à Charles Carson en fait on commençait à être vraiment connus au cours des années 50. Les suspicions ont monté mais il n'était pas facile d'en parler, tout le monde n'était pas prêt à les entendre.
Alors nous avions l'embarras du choix pour illustrer en musique cette émission. Nous avons choisi une protest song emblématique, c'est Blowing in the Wind de Bob Dylan, c'est une chanson de 1963.
Autour de la question, Sophie Joubert.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bob Bob Dylan, Blowing in the Wind, une chanson de 1963. Il se passe beaucoup de choses en cette année, même s'il ne faut pas forcément raisonner en termes de dates précises. Tout est une question de contexte, d'aboutissement. L'un des articles de l'année 1963 dans cet ouvrage La science des 60s s'appelle Les pantins de l'autorité et il fait référence à l'expérience de l'américain Stanley Milgram. Écoutez un extrait du film d'Henri Verneuil, I comme Icare, avec Yves Montand.
Mot suivant, violent.
Violent, attendez, ça je le sais. Souffle violent.
Faux. La réponse était vent. Vent violent. 30 volts. Réfléchissez avant de dire n'importe quoi. Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de vous envoyer des décharges.
Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques vont aider M. Rivoli à améliorer sa mémoire?
Je répète.
La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité.
L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner?
165 volts.
Arrêtez.
Je refuse de continuer. Laissez-moi partir.
Mais enfin, il va tout de même aller jusqu'à 450 volts.
Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions.
Une des scènes de ce film a été tournée chez Bulle, me disiez-vous, Pierre Mouniécune, pendant l'extrait.
Oui, une des scènes de I comme Icare a été tournée dans la salle d'ordinateur dans le centre de calcul de la compagnie des machines Bulle. Et ce qui montre bien que l'informatique servait aussi de cadre à ce qu'on voulait montrer comme étant ce qu'il y avait de plus avancé, ce qu'il y avait de plus moderne, ce qu'il y avait de plus aussi efficace et froid dans
inquiétant
la gestion
aussi,
des collectivités.
Hein.
Et inquiétant. On en retrouve un écho dans le gros ordinateur HAL de 2001, l'Odyssée de l'espace.
68.
Voilà.
Quel est le contexte de cette expérience de Milgram, Olivier Néron de Surgé?
Pour cette histoire, en fait, il faut effectivement se prendre un petit peu de recul sur les expériences qui sont présentées. Bon, déjà, comme vous l'avez dit, en 63, le jeune psychologue Stanley Milgram, en fait, publie un de ses principaux articles, en fait, qui fait état d'un certain nombre d'expériences qu'il a menées au cours des 2-3 dernières années. Et en fait, à l'époque, on se demandait quelles étaient les causes de comportements tortionnaires et même génocidaires. On s'interrogeait beaucoup sur comment on avait pu arriver à la Shoah.
À la Shoah. Et on se dit, est-ce que ça vient de la société ou est-ce que ça vient de l'individu?
Est-ce que c'est avant tout la cause est dans la proportion individuelle à avoir un comportement tortionnaire ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont très importants? L'idée générale, c'était aller plutôt pointer plutôt la caractéristique individuelle. Est-ce que Stanley Milgram a testé en introduisant vraiment des méthodes de psychologie scientifique avec un certain nombre d'expériences et donc il a mis en évidence le contexte, la force extrêmement puissante du contexte social qui était en l'occurrence la soumission d'une personne à une autorité, à une figure d'autorité institutionnelle.
Et cette expérience coïncide avec le développement de la psychologie sociale. Nous sommes en 1963, nous allons parler tout à l'heure des débuts de l'informatique ergonomique, de l'internet, bien sûr, de la nouvelle préhistoire, des mathématiques modernes, et puis de la conquête du ciel. Pierre Mouniécune et Olivier Néron de Surgy, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après les informations.
De la question. Sophie Joubert.
Autour de la question « Qu'est-ce que la science des 60s ?» avec Olivier Néron de Surgy, docteur en astrophysique et journaliste scientifique, co-directeur avec Stéphane Tirard de l'ouvrage « La science des 60s » paru chez Belin, et Pierre Mounier-Kuhn, historien des sciences, spécialiste de l'histoire de l'informatique. Et étrangement, mais pas si étrangement que ça, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez eu envie de parler de la nouvelle préhistoire. Écoutez la voix du grand préhistorien André Leroy-Gourhan à propos de son ouvrage « Le geste et la parole ». C'est une archive INA de 1960.
Le premier homme n'existe pas, c'est une abstraction. Si menu on puisse imaginer son origine, elle est fondée dans une collectivité déjà. Et par conséquent, les moyens de communication propres aux individus, dans les groupes humains les moins évolués, c'est-à-dire ceux qui ont pu exister il y a plus d'un million d'années, la communication était d'ordre... d'un ordre comparable, mais non pas assimilable, à celui des troupes de chimpanzés, par exemple, qui échangent leurs signaux.
Mais alors, votre réflexion à propos du langage vous amène à penser comment, à votre avis, a pu naître le langage ?
Mais il est né en plusieurs dizaines de milliers, sinon en plusieurs millions d'années, de l'évolution physique, de l'évolution du cerveau et de l'évolution de tout le corps, des ancêtres de l'homme. Il est très difficile en paléontologie, et Teilhard de Chardin l'avait déjà fait ressortir, le point d'origine est très difficile à fixer, il est hors de notre accès, et on est obligé, c'est exactement comme lorsque dans des temps plus récents, on parle de l'invention de l'agriculture. Or l'agriculture n'a pas été inventée, elle est née avec certaines formes sociales, progressivement à partir de la cueillette, comme le langage est sorti progressivement des signaux animaux.
Pierre Mounier-Kuhn, vous avez bien connu André Leroy-Gourhan, vous êtes allé le voir sur ses chantiers de fouilles à Pincevent, en Seine-et-Marne. Qu'a-t-il apporté à cette science des années 60 ?
Ah, écoutez, moi je suis très ému d'abord d'entendre ça, la voix de Leroy-Gourhan, je ne m'y attendais pas. Et je suis ému et joyeux, parce que l'entendre tenir ce discours, c'est le voir jeter un immense pavé dans la mare. L'essentiel de ce qu'il dit rejette toutes les balivernes créationnistes dans les marécages fangeux de la mythologie inintéressante. Et en même temps, il faut bien se rappeler que Leroy-Gourhan était un grand chrétien. C'est pas du tout un athée militant, il était chrétien et un des grands représentants de l'analyse de l'évolution des espèces. C'était un garçon qui avait quitté l'école adolescent et il s'embêtait et il s'est passionné pour les chevaux. Et il a monté à cheval, il a vécu à cheval. D'ailleurs, je l'ai vu visiter son chantier de Pincevent à cheval. Beaucoup plus tard. Et donc, pendant sa jeunesse, il s'est passionné pour les chevaux, il a fini par reprendre des études, et il a fait des études de sciences naturelles, où il a fini par un doctorat, je crois le sujet c'était la dynamique du crâne chez les vertébrés, et puis il a fait un autre doctorat consacré à des analyses de cultures anciennes. Il a travaillé sur les Esquimaux, sur le chamanisme sibérien. C'est vraiment quelqu'un qui avait une vision complète de l'homme, qu'il résumait en ces termes: on ne peut pas comprendre l'homme actuel si on ne connaît pas l'homme passé, et on ne peut pas comprendre l'homme culturel si on n'analyse pas l'homme physique.
Mais c'est intéressant qu'il parle du langage, puisque vous vous intéressez à l'informatique. L'informatique, c'est aussi un nouveau langage. Alors, on va faire un détour par le langage mathématique avec une autre grande figure des années 60, une figure très mystérieuse de l'histoire des mathématiques. C'est Alexandre Grothendieck, qui est mort le 13 novembre 2014 à l'âge de 86 ans, après des années de silence.
On voit mal. Quel mathématicien dans l'histoire avait réellement et ouvertement, et avec autant de succès et de richesse, eu la même approche que lui? On pense à Hawking.
Et son départ, extrêmement mystérieux, pour des raisons plus ou moins anecdotiques, fait que tout le monde cherche à comprendre pourquoi et comment quelqu'un qui était si identifié à la science, aux mathématiques, a pu tout d'un coup s'en attacher aussi facilement.
Tout jeune thésard, dans ma génération précise, une histoire de génération, ne pouvait qu'avoir envie de rencontrer Grothendieck.
Quelqu'un qui, comme ça, au sommet de la gloire, avec une médaille Fields, prof au Collège de France, dit, finalement, c'est pas l'essentiel. Je pense que j'ai mieux à faire que ça.
On m'a toujours dit, c'est un homme qui est reclus, puisque c'est vrai qu'il vit en arrière, quoi. Mm-hmm.
Elle a entendu une chose. Grodendieck, monsieur Alexandre, lui aurait dit la fin du monde, elle va venir.
C'est un extrait d'un documentaire de Catherine Herra sur les routes d'un génie. Alors il faut être très très prudent avec ce terme de génie, Olivier Néron de Surgi. Mais enfin quand même, cette figure de Grothendieck est extrêmement romanesque au fond.
Oui, c'est une grande figure, c'est un grand mathématicien, c'est quelqu'un qui avait un caractère très fort, il était très très droit, il a refusé en fait que la présence de certaines compromissions, de copinage, que certains soient un peu promus alors qu'il n'avait pas forcément mérité tout ça.
Donc c'est pour ça qu'il refuse la médaille Fields en 1966, oui, c'est pour ça qu'il est présent dans l'ouvrage à cette date-là.
Oui, c'est pour ça, et voilà, c'est pour ça qu'il a un peu claqué la porte du monde de mathématicien dans lequel il évoluait. Mais il a fait beaucoup évoluer les mathématiques.
Voilà, alors l'apport de Grothendieck à la science, au fond, on la voit quasiment tous les jours dans les écoles, même si on ne le sait pas, puisqu'il a fait partie de ce groupe de mathématiciens appelé Nicolas Bourbaki. Donc Nicolas Bourbaki est un personnage imaginaire, et au fond, ils ont inventé les maths modernes.
C'est un grand mathématicien, Grothendieck, mais bon, il n'est pas forcément très connu du grand public parce qu'il n'a pas laissé de théorèmes qu'on apprend au collège ou au lycée. En fait, il faut bien voir que il a été porté, aidé par d'autres grands noms, d'autres grands mathématiciens, et que son travail ne peut pas être isolé de l'école mathématique française. Bon, alors son œuvre, on peut pas aller dans le détail parce qu'elle est très fournie, très grande, mais très brièvement, il a contribué à refonder les mathématiques, l'écriture des mathématiques, les concepts, ce qu'on appelle les structures mathématiques, ce qu'on appelle les mathématiques modernes en fait. Voilà, trouver des résultats
vide,
les plus généraux possibles. Et alors, effectivement, on
dans les notations,
outre des travaux très pointus, il y a sa participation au groupe Bourbaki a eu pour effet, effectivement, d'introduire toute une nomenclature qu'on connaît par l'ensemble vide, les bijections, les fonctions. Voilà, il y a tout un bestiaire de noms qu'on connaît aujourd'hui maintenant.
Pierre Mouniécune.
Oui, c'est vraiment un personnage extraordinaire qui a refondé une branche entière des mathématiques qui s'appelle la géométrie algébrique. Voilà. Mais je serais bien incapable de vous en dire plus parce que je suis pas du tout mathématicien. En revanche, une des choses qui sont intéressantes à voir avec le personnage de Grothendieck, c'est comment est-ce qu'un personnage aussi génial, aussi marginal, aussi apatride et aussi ingérable que Grothendieck a pu d'emblée, adolescent et à l'âge de 20 ans, se faire une place dans le monde des mathématiques, dans un monde aussi hiérarchisé que le monde académique français. Et ça illustre bien une des raisons d'être de ce livre, qui est de montrer l'extraordinaire expansion du monde scientifique à l'époque, un monde scientifique où on a créé des quantités d'institutions. Dans la décennie qui nous intéresse, c'est l'INSERM, le Centre National d'Études Spatiales. On avait juste avant créé l'Institut des Hautes Études Scientifiques de Bure-sur-Yvette. Et un personnage qui arrive de la Lune, comme Grothendieck, un électron libre qui arrive en France, avec en plus les problèmes de la guerre qu'il a passé dans son enfance. Il trouve des structures d'accueil à l'École normale supérieure, à l'Institut des hautes études scientifiques, où il reste 15 ans, et ça marche. On a donc créé, dans une époque aussi organisée, l'époque des technocrates, l'époque des grands plans, on a créé des institutions qui permettaient d'accueillir des électrons libres et de les faire produire le mieux qu'il pouvait jusqu'à ce qu'il cesse de le vouloir, puisque en 70, Grothendieck est passé à l'écologie.
Voilà, c'était un militant et écologiste radical, et il a passé la fin de sa vie au fin fond des Pyrénées, complètement isolé. Alors, on va passer directement en 1968 avec les prémices de l'Internet. Écoutez, Francis Ball, professeur à Paris 2 et auteur du Dictionnaire du Web, c'était dans l'émission 2000 ans d'histoire de Patrice Gélinet en 2001. Qu'est-ce qu'un protocole et comment fonctionne l'Internet ?
Un protocole, c'est un procédé informatique qui permet à des réseaux qui n'ont pas été conçus pour fonctionner les uns avec les autres, d'être maillés les uns aux autres. C'est-à-dire que concrètement, si l'on dit d'Internet que c'est le réseau des réseaux, c'est parce qu'il y a un procédé technique qui a été inventé précisément par Vinserf et Robert Kahn, un procédé technique qui permet à ces réseaux de constituer une véritable toile, d'être connectés les uns avec les autres et de constituer par conséquent pour la première fois dans notre histoire un réseau deux réseaux, c'est-à-dire que des réseaux qui avaient été conçus par des nations différentes, des réseaux qui avaient été conçus à l'intérieur de chaque nation pour des usages différents, se met à fonctionner ensemble, de telle sorte que ce qui était conçu pour transmettre de la voix, le téléphone, ce qui avait été conçu pour transmettre de l'image, les câbles pour la télévision, vont pouvoir fonctionner ensemble et véhiculer toutes sortes de messages, que ce soit de la voix, du téléphone, du son, c'est-à-dire de la radio, ou de la télévision, ou des données, c'est-à-dire des données informatiques entre ordinateurs.
Alors avant cela, il faut remonter à l'ARPA, l'Advanced Research Project Agency. De quoi s'agit-il, Pierre Mounier-Cunel ?
C'est un autre exemple, exactement de la même chose, d'une grande institution dépendant d'une organisation bien établie, le Pentagone, qui est capable d'accueillir des électrons libres qui ont des idées originales et qui ont les moyens de les mettre en œuvre.
Des jeunes gens,
des jeunes gens venus d'un petit peu partout, de projets de radar, de projets de réseau, de construction d'ordinateurs, de programmation, qui expérimentent, qui jouent avec ces objets nouveaux, mais qui jouent avec des moyens énormes, et qui sont pris dans la logique de progrès de ces systèmes informatiques. C'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive à faire avancer un endroit du front du progrès, on a des creux ailleurs qu'on essaye de faire avancer à leur tour. Et donc, quand on a fait une avancée sur les composants, il faut faire avancer les langages. Quand on a fait avancer les langages, il faut faire avancer les systèmes d'exploitation. Quand on a fait avancer les systèmes d'exploitation, on s'aperçoit que les ordinateurs passent le plus clair du temps à attendre que les utilisateurs aient fini de réfléchir. Donc, on en arrive à l'idée de brancher plusieurs terminaux sur un même ordinateur pour rentabiliser au maximum la machine. Une fois qu'on a réussi à faire ça au début des années 60 avec le time sharing, on commence à se dire que ce serait bien de pouvoir partager les ressources de plusieurs ordinateurs en les faisant communiquer entre eux. Et donc, on essaie de faire communiquer des ordinateurs d'IBM, d'Univac, de Bull, de toutes les marques qui pullulent à l'époque, pour faire un vaste système unifié qui serait comme une sorte de bibliothèque. C'est un peu le rêve de l'encyclopédie Diderot et d'Alembert transformée en ressources électroniques.
Mais quel est le rôle des militaires dans cette affaire ? Parce qu'on a beaucoup parlé du rôle de l'armée, mais au fond, c'est assez minoritaire ?
C'est à la fois important et discret. Contrairement à ce qu'on a cru, ARPANET n'est pas du tout un réseau d'ordinateurs militaires fait pour résister à une attaque atomique. Les ordinateurs de ARPANET étaient installés dans des universités. S'il y avait eu une attaque nucléaire soviétique, ils auraient été réduits en cendres. Donc là, on a confondu ARPANET avec le réseau militaire SAGE, qui était un réseau d'alerte avancée en cas de guerre qui deviendrait chaude. ARPANET, c'est avant tout un projet d'universitaires qui sont accueillis et invités par les militaires pour faire progresser le savoir au profit des États-Unis, bien sûr, et aussi pour partager les ressources des ordinateurs que les militaires ont financé dans les universités et que les comptables militaires aimeraient bien voir rentabilisés au maximum. Donc il y a une logique dans tout ça, qui est une logique économique et sociale, et dans le fond une logique intellectuelle, parce que il y a des militaires qui ont envie de s'amuser avec ces appareils nouveaux, de faire avancer les choses, aussi d'expérimenter des systèmes temps réel qu'on voit maintenant en œuvre depuis 10 ans, depuis la guerre, ou même depuis 20 ans, depuis la guerre du Golfe, et qui ont envie aussi de mettre le maximum de ressources à disposition de chercheurs qui travaillent sous contrat militaire et dont peut-être 10% des résultats auront une réelle utilité pour la défense.
Mais est-ce que, par ailleurs, ou en même temps, parallèlement, l'histoire de l'Internet, c'est le mariage réussi entre technologie, technique et contre-culture ?
Entre technologie, culture et contre-culture, les trois, je dirais, parce que vous avez soit des militaires, soit des universitaires civils qui sont pas du tout dans la contre-culture, mais qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire des choses nouvelles. Vous avez des étudiants dont certains effectivement sont très poilus, fument de la ganja et écoutent Electric Ladyland de Jimi Hendrix et qui apportent leur façon un peu originale de travailler, leur goût du partage. ARPANET, c'est aussi ça. Donc il y a des coïncidences d'intérêts qui fonctionnent, qui prennent dans l'ambiance très particulière des universités américaines qui ont à la fois beaucoup d'argent, beaucoup d'exigences et beaucoup de liberté. à cette époque.
Parce que ça donnera plus tard naissance au mouvement open source. Enfin, ça, c'est un peu la même philosophie.
C'est évidemment l'une des racines de la philosophie open source. Il faut dire quand même que faut pas faire d'ARPANET l'unique origine de l'internet. Ce qui est Internet aujourd'hui. Oui. À la fin des années 60, en même temps que ARPANET devient opérationnel, vous avez AlohaNet dans les îles Hawaï, qui est un réseau d'ordinateurs qui sont reliés par radio. Parce que c'est des îles, donc c'est pas câblé. Et vous avez les Anglais qui mettent au point près de Londres un réseau assez similaire. Et deux ou trois ans après, les Français s'y mettent avec le réseau Cyclades.
Alors les années 60, c'est aussi une décennie qui regarde vers le ciel et surtout vers la lune. On en parle juste après les Beatles, Revolution, on est en 1968. C'est une chanson politique de John Lennon qui amorce son engagement en faveur de la paix.
Vous écoutez RFI autour de la question.
But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Money for people with minds that hate. All I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
Les Beatles, Revolution sur RFI. En 1961, le président Kennedy parlait d'envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Ce sera chose faite en 1969. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, la mission Apollo 11. Souvenez-vous, c'était le 20 juillet 1969.
C'est un petit pas pour l'homme, un giant leap pour mankind.
Aldrin descend maintenant les marches du LEM, avec lui aussi toutes les précautions nécessaires, et semble-t-il, en suivant, j'allais dire pied à pied, les conseils que venait de lui donner Armstrong, c'est-à-dire en arquant son dos de manière à assurer son équilibre. Aldrin descend, il est maintenant presque arrivé sur la surface, dernier barreau, et il tape lui aussi le sol de la pointe du pied, comme on lui avait conseillé de faire, c'est fait. Les deux hommes sont maintenant sur la Lune. Aldrin tient toujours les montants de l'échelle. Il ne se détache pas. Il remonte un barreau. Il saute. Il saute pour assurer son équilibre. Encore un test. Il a sauté. C'est extraordinaire, évidemment, comme il n'y a pas de pesanteur, il a sauté, puis il est resté tout simplement accroché en l'air, à peu près à 40 cm au-dessus du sol. Et quand on connaît le visage d'Aldrin, qui est un pince sans rire, qui est un colosse pince sans rire, on peut imaginer que derrière son casque, Aldrin sourit.
Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Your ongoing mission, to explore strange new worlds. To seek out new life forms and new civilizations. To boldly go where no one has gone before.
Sophie Janin s'est amusée à mixer l'archive du 20 juillet 69 avec un extrait du film Star Trek, parce que les années 60, c'est aussi la science-fiction. Star Trek, on le disait tout à l'heure, 2001, l'Odyssée de l'espace, le ciel faisait encore rêver. C'est extrêmement important, cette mission Apollo 11. 11 vols habités sur 17 missions effectives. La première des missions se soldera d'ailleurs par la mort de 3 astronautes. Immense mobilisation humaine aux États-Unis. Olivier Néron-Turgy, quel est le symbole de cette mission Apollo 11?
C'est le fameux pas pour l'humanité, bien sûr, on le connaît tous. C'est très emblématique ce programme.
Dans la lutte avec les Soviétiques.
Oui,
c'est très important.
Voilà, c'est très important dans le contexte géopolitique, c'est très important dans l'absolu, enfin je veux dire emblématiquement, l'homme qui pose le pied sur la Lune, c'est pas rien. Alors ce qu'on découvre là dans l'article de Michel Vizeau, c'est en fait à quel point ce programme a nécessité des investissements techniques, scientifiques, financiers importants, et quelles ont été ces retombées
jusqu'à aujourd'hui,
et des retombées qui concernent différentes disciplines scientifiques, c'est-à-dire qu'on a pu obtenir des données très importantes, par exemple sur la Lune, d'où provient la Lune, comment elle s'est formée, sur les effets de marée, mais aussi en matière de sciences, il y a par exemple les sciences du management. Hein, le programme Apollo a dû mobiliser en un temps extrêmement court des quantités d'équipes pour travailler sur des sujets extrêmement divers. Il a fallu là développer des méthodes et des efficacités tout à fait nouvelles. Et en fait, il y a eu un essaimage des compétences, des savoirs qui ont été développés au cours de ce programme après donc la mission Apollo et qui ont été utilisés après dans le monde entier dans des domaines très différents, dans des sociétés très différentes. Et évidemment sur le plan technologique, et là on a aussi énormément de retombées. Il y a beaucoup d'applications et de nouveaux matériaux, notamment des matériaux anti-feu qui ont été développés grâce au programme Apollo. Et aussi le programme Apollo a boosté en quelque sorte un certain nombre de travaux sur notamment la miniaturisation des systèmes informatiques, par exemple, sur le contrôle de qualité de...
Voilà, peut-être. Par exemple, Pierre Mouillacune.
Il a fallu développer des composants et des ordinateurs à la fois très fiables, très légers, très peu encombrants, qu'on puisse embarquer dans des missiles et dans des engins spatiaux. Donc ça, c'est un domaine où personne ne pouvait être à la hauteur des États-Unis à l'époque. Et c'est important de dire aussi que cette course à l'espace marque, à la fin des années 60, une limite de ce que les Soviétiques sont capables de faire. Ils ont fait des merveilles. Il faut bien se rappeler que dans les années 60, il y avait au moins 3 programmes spatiaux qui étaient menés de front par les 2 grandes puissances. Il y avait la course à la Lune, il y avait la course à Vénus, la course à Mars.
Mars, très importante, voilà, aussi.
Tout ça en même temps. Les Soviétiques avaient non pas un, mais 2 programmes lunaires en parallèle, en compétition. C'est paradoxal, mais c'est eux qui avaient des programmes en compétition.
Et donc là, le triomphe des Américains est tel qu'ils abandonnent ?
Ils envoient des fusées, des fusées, des fusées vers la Lune, les missiles explosent, les engins ne marchent pas, ils arrivent à faire le tour de la Lune par un engin qui prend des photos, mais ils n'arrivent pas au stade où ils se sentiraient capables d'envoyer des bons hommes sur la Lune, des cosmonautes. Et donc c'est les astronautes qui gagnent la course, et c'est quand même un des grands plafonnements, au sens propre du terme, de la puissance soviétique.
Est-ce que les années 60 sont aussi les années de la science-fiction? J'évoquais des films tout à l'heure, Star Trek, 2001, l'Odyssée de l'espace.
C'est les années de la science-fiction avec 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est aussi les années où on a peur. Tous ceux qui ont été adultes ou enfants à cette époque se rappellent qu'on vivait dans la vie quotidienne avec la conscience quelque part au fond de notre cerveau qu'il y avait des bombes atomiques par centaines dans des silos qui un jour ou l'autre pouvaient peut-être partir et nous anéantir. Il y avait ça en arrière-plan de la civilisation, du rock'n'roll et de la société de consommation qui était en pleine expansion.
Est-ce que ces années 60 se clôturent au fond avec le rapport Brooks qui est publié par l'OCDE en 1969, qui est un rapport sur la science, la croissance et la société?
Alors, bon, les années 60 sont une époque où les scientifiques, globalement, avaient une certaine liberté de travail, avaient avait un certain nombre de moyens, parce que bon, c'était les 30 glorieuses, hein, donc il y avait quand même pas mal d'argent dans les programmes de recherche, même s'il faut pas non plus extrapoler trop. Et on peut dire aussi, sans trop caricaturer, que le scientifique, d'une façon générale, faisait un peu figure d'autorité, en tout cas peut-être plus qu'aujourd'hui.
Et donc là, il est un peu remis en cause.
Et donc, ce rapport a mis en évidence le fait que la recherche a pu subir un certain nombre de pressions. Mais néanmoins, pour autant, on ne peut pas conclure, compte tenu de l'ampleur, du nombre de directions et de découvertes qui ont été faites dans toutes les disciplines scientifiques, il n'empêche pas que la science a pu quand même se développer dans un nombre de directions extrêmement grand et avec une relative liberté, il me semble.
On n'a pas parlé de l'expansion de l'univers et du Big Bang, car nous lui consacrerons une émission tout entière la semaine prochaine avec Jean-Pierre Luminet. Merci beaucoup Pierre Mounier-Cune et Olivier Néron de Surgi. La science des 60s est publiée chez Belin.
Pour nous contacter, autour de la question, @rfi.fr.
Merci à Sophie Janin. On se retrouve la semaine prochaine et dès lundi, vous serez en compagnie de Caroline Lachowski.
En sol majeur.